France Inter.
L'écrivaine Céline Minard s'illustre par son imagination défiant toute loi spatio-temporelle, son inventivité et ses expérimentations langagières. Elle change de siècle et de continent à la vitesse de la lumière et sonde l'espace dans toutes ses acceptions. Elle a notamment publié Le Dernier Monde, Odyssée du Dernier Terrien, Bastard Battle, épopée du XVe siècle en français ancien hybridé à d'autres langues, le western Faillir être flingué, prix du livre Inter, ou encore Olympia, sur l'influente belle-sœur du pape Innocent X qui mourut empoisonnée en 1657. Figure singulière du monde littéraire, Céline Minard flirte avec la poésie, la science-fiction ou l'épopée métaphysique. L'auteur du Grand Jeu et de Plasma vient de publier Tovangar chez Rivage, foisonnant roman de la post-humanité se déroulant dans un Los Angeles du futur, envahi par des créatures de toutes espèces, espèces étant d'ailleurs un mot soigneusement évité pour les décrire. Dans cette fresque sensorielle post-apocalyptique, on parle plutôt des différents corps qui vivent en harmonie, contrairement aux humains qui les ont précédés. Les habitants majoritaires, faune, flore, robots ou autres créatures, n'ont pas fait l'erreur d'imposer de hiérarchie dans leur cohabitation. Dans cet univers mutant, une certaine Amaryllis Swanson, je pense que je prononce très mal, c'est ça ? Swanson. Auboisière bipède glabre de culture forestière, va prendre la tête d'une exploration avec de curieux camarades. Une fable bioécologique merveilleuse, émaillée d'un lexique inédit qui semble pourtant couler de source, sans faire de mauvais jeu de mots avec ce dont il sera question en partie. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Céline Minard.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Il y en a deux en fait.
Ah super.
Super ?
Ah oui.
Il y a Raya Srisha, Les jeunes constellations, chez Kidam, qui est un superbe roman d'aventure poétique. Et dans ce volume-là, qui est le deuxième volume, on traverse une mer. Donc c'est un voyage en bateau. Et c'est vraiment très 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 beau et très scintillant. Et la deuxième chose que j'ai lue plus récemment, c'est Judith Chalansky, Inventaire de choses disparues, et ça c'est très rigoureux, très savant, très beau, très littéraire, très belle langue française, c'est traduit de l'allemand.
D'accord, mais alors c'est ce que vous aviez choisi comme découverte pour les auditeurs, et de quoi est-ce que ça parle ?
De choses disparues qu'elle fait réapparaître, et elle peut faire réapparaître un port qui est, par exemple, qui a été peint par Gaspard David Friedrich et qui n'existe plus, et elle va partir d'un point plus en amont du port et décrire en fait en marchant le long de la rivière et décrire toutes les espèces qu'elle croise et les nommer et dire juste elles sont là. Et là, on se rend compte qu'il n'y a plus aucune crise de la sensibilité, que tout le monde est encore là.
Qu'est-ce que vous appelez crise de la sensibilité ?
C'est ce qu'on dit, on a du mal à sentir la nature et c'est pour ça qu'on en est coupé. Moins on a les mots pour la décrire, moins on l'aperçoit, ce que je pense qui est vrai. Et elle a plein de mots et elle l'aperçoit très très bien.
Vous l'apercevez bien la nature, j'imagine ?
Oui, j'essaye.
Vous vivez dans la nature ?
Oui, plutôt, en ce moment, oui.
Quels sont vos arbres favoris ? Il y en a plein qui émaillent votre roman, mais vous avez des chouchous ?
En Europe, j'ai mon chouchou, c'est le châtaignier. Et puis aussi parce que dessous, on trouve des champignons très intéressants à manger.
Ah, pas avec lesquels discuter ?
Bon, ça c'est une forme de rapports. Discussion, la cuisine.
C'est vrai. Alors, petite, vous vouliez devenir homme de lettres parce que vous n'aviez jamais entendu le féminin.
Oui.
Et vous n'êtes pas trop déçue alors maintenant de ne pas être un homme de lettres, mais vous pouvez l'être.
Peut-être
aussi.
Que je suis homme de lettres.
Oui, je pense que vous l'êtes.
Oui. Enfin, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de ne pas être mort. Parce que c'était quand même, le problème avec les hommes de lettres, c'était qu'ils étaient morts.
Oui, c'est vrai. Donc... mais chez vous, les chevaliers sont des femmes.
Oui.
Et les braqueuses aussi.
Ah oui.
Mais ça, c'est rare.
Les braqueuses, oh ça, oui.
Oh, on voit plutôt des braqueurs dans la fiction.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais les braqueuses, ceci dit, elles braquent bizarre parce qu'elles restent dans le lieu du braquage et au lieu de faire sortir les valeurs, elles les consomment.
Mmh. Oui, c'est encore une histoire de consommation et ici de boisson, mais je n'en dis pas plus. Vous vouliez, dès le début, faire des livres magiques.
Oui.
Mais pour vous, le merveilleux, c'est pas forcément brutal ou violent. Vous aimez le fait que les dragons découvrent les choses sans bagarre, que les chevaliers habitent le monde.
Oui, plutôt monter sur un dragon pour aller faire un tour que lui planquer une épée dans l'occiput.
C'est vrai. Vous dites que la magie n'est pas hors du monde, qu'elle est dedans. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder ? Parce qu'on l'oublie facilement, elle est...
Eh bien, on est attentif. On essaye de regarder et on essaye de changer notre perception ordinaire. Par exemple, si on rentre dans un jardin, comme ça m'est arrivé sur le plateau de Los Angeles, un très beau jardin qui s'appelle Huntington, eh bien, on peut rentrer par le jardin du désert et voir ces plantes. C'est déjà être en contact avec un certain discours végétal. Si on change notre rapport au temps, à la durée, c'est-à-dire que si on se met dans la durée des plantes qui poussent tout le temps, mais pas très vite par rapport à nous, et qu'on se ralentit, on se ralentit, on se ralentit, et on peut être capable de voir la pousse d'un ficus qui, en fait, est hyper vive. La façon dont le ficus enfonce ses racines dans la terre, en serpentant comme ça, et ça siffle presque, hein, quand on le regarde vraiment, et on peut très bien sentir la profondeur des racines et les 1000 petites radicelles qui grouillent sous terre. Mais il faut changer sa durée.
Comment est-ce qu'on fait ?
On se concentre.
Donc ça a à voir avec l'attention ?
Absolument.
Vous l'avez toujours eu un accès à l'attention et la concentration aisée, ou vous l'avez travaillé ?
Non, ça se travaille. C'est pas du tout aisé et ça l'est pas. Ça l'est peut-être un petit peu plus maintenant à force d'habitude, effectivement, de pouvoir se mettre dans un état d'attention, peut-être un peu plus rapidement. Mais c'est pas facile. Il faut quand même se forcer à rentrer dans cet état-là. Après, effectivement, en situation là, devant les dans ce jardin, là, c'est beau, c'est assez immédiat en fait.
Est-ce qu'on peut trouver de la magie dans le bitume ?
Oui, s'il est soulevé par les arbres et que
comme
le trottoir commence à craquer. On peut trouver de la magie dans le bitume si on le parcourt aussi à la bonne vitesse, à la bonne heure, dans un véhicule qui ne fait pas de bruit, éventuellement propulsé par le vent. On peut.
Donc, en fait, tout se relie à l'espace-temps chez vous, j'ai l'impression.
Oui, à l'espace beaucoup, oui.
Quel est votre rapport à l'espace, vous qui avez beaucoup voyagé ?
J'ai pas beaucoup voyagé, pas assez en fait.
Vous êtes allé quand même en Asie,
oui.
En Italie ?
Oui.
Bah, c'est l'essentiel.
Et aux États-Unis un peu.
Bien sûr.
Oui, c'est vrai. Non, mais j'aimerais
plusieurs
bien. Il y a plein de choses que je voudrais voir encore. Moi, l'espace, j'ai besoin de l'espace en fait. J'ai besoin du volume pour respirer. J'ai besoin de ça. C'est pour ça que j'aime la montagne aussi. Parce que en montagne, on peut être face à des murs, mais si on va un peu plus haut ou si on tourne un coin, paf, on va être devant un énorme volume. Et c'est grâce à la montagne qu'on voit le volume. Moi, en mer, par exemple, je vois pas de volume. Une platitude et un horizon que j'arrive pas à appréhender en fait. Alors qu'en montagne, c'est plus resserré, c'est plus haut et je sais pas, je sens le volume, je le sens mieux.
Votre roman Le Grand Jeu se passe en montagne et justement, vous avez une œuvre qui à la fois fourmille, foisonne. Et dans ce livre-là, l'héroïne cherche l'épure, cherche l'isolement, même si elle va rencontrer un ermite. Et donc, ma question est la suivante, quel est votre rapport à la spiritualité, quel que soit le sens que vous lui donnez ?
Je ne sais pas si j'en ai un, en fait. Pour moi, c'est vraiment plus dans le présent immédiat que je peux, et dans cet état de concentration, d'attention, que je trouve quelque chose qui nourrit mon esprit, mais aussi bien ça nourrit mon corps. Je ne fais aucune distinction. Pour moi, l'esprit est dans le corps, et puis jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ma mort, il y restera. Et c'est ça. Et la vie spirituelle, c'est la vie du corps aussi. C'est absolument pas détaché.
Vous prenez le merveilleux, l'imaginaire. J'ai lu que vous aviez passé une centaine d'heures à jouer à Zelda Breath of the Wild. Le réel, il n'a pas trop une sale gueule quand on aime autant le merveilleux, même si vous le trouvez évidemment dans la nature, mais je veux dire, ça peut être décevant quand on se plonge régulièrement dans la science-fiction ou dans des inventions fabuleuses.
Ben non, je crois pas, parce que vous savez, le matin, quand vous ouvrez le volet d'une fenêtre et puis que vous voyez que l'herbe a gelé dur et que tout est enrobé par une fine pellicule blanche faite de milliards de gouttelettes et que le son en est transformé et que l'odeur même de la prairie est transformée, c'est absolument merveilleux et c'est du réel et voilà.
Et c'est la flore.
Et c'est là, Oui, c'est la flore, mais vous avez un jet qui démarre, vous avez un pic qui était là, qui continue à... ou qui saute sur l'arbre mort, qui est, voilà, ou qui s'échappe parce qu'il vous a vu, vous avez quelque chose qui passe. C'est tout un monde qui est toujours là, je dirais, quand même.
Et un monde du vivant, on ne peut pas s'émerveiller sur des pierres comme Roger Caillois, par exemple.
Si, on peut. On peut. Des énormes éboulis ou des choses qui ont l'air d'être tombées hier alors que ça fait 3000 ans et qui sont toujours en mouvement d'une certaine façon.
Dans votre livre La Manadologie, vous faites quelques emprunts à Borges et Spinoza et Leibniz. Est-ce que ça a un rapport avec vos études de philosophie et en quoi vous ont-elles influencé ?
Oui, ça a clairement un rapport. Elles m'ont influencée dans le sens où elles m'ont fourni justement une sorte de matière de science-fiction. C'est clairement comme ça que j'ai fait de la philo, en fait. C'est pour ça que je ne pouvais pas devenir philosophe, parce que, en fait, je spatialisais tout et je concrétisais tout. Je suis très mauvaise pour l'abstraction, finalement. Et moi, quand j'ai entendu parler d'une monade, une substance simple, chez Leibniz, j'ai tout de suite vu une forme, ce qui est complètement contradictoire. Et voilà, donc cette substance simple qui n'a ni porte ni fenêtre et qui contient le monde et qui, en se dépliant, en dépliant la perception, sa propre perception, va déplier le monde. Qu'est-ce que c'est ça, à part une idée de science-fiction extraordinaire ?
Est-ce que vous vous inspirez plutôt d'images pour écrire ?
Je vois ce que j'écris, mais je le sens aussi. Je le sens au toucher.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est pas seulement visuel, c'est multisensoriel, oui.
Ça, on le sent dans votre écriture.
Oui, c'est très important pour moi. Pour moi, l'imaginaire que je préfère lire, c'est celui que je sens. Là, Judith Chalansky, là, dont je parlais au début, elle a une petite phrase au tout début, dans son avant-propos du livre L'inventaire des choses perdues. Elle dit que rien ne peut être... ramené par l'écriture, mais que tout peut être rendu à l'expérience. Et c'est exactement ça. Donc on peut pas ramener un mort, il va pas se mettre à marcher dans la pièce, ok ? Mais on peut ramener quelque chose de son corps vivant, de l'expérience qu'on a eue, de l'échange avec lui ou elle, et que voilà, et que ça peut être rendu à l'expérience et que ça passe dans la littérature. Donc c'est ça. Pour moi, c'est ça. Si on arrive à imaginer, par exemple, une matière qui n'existe pas et à la faire sentir, alors là, trop top.
Ouais, je crois que vous y arrivez.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Céline Minard, vous avez publié Tovangar chez Rivage, un conte philosophique et écologique post-apocalyptique, mais dans le bon sens du terme, et je n'en connaissais pas de bon avant de vous lire. Est-ce que vous avez foi dans le vivant, et je ne mets pas nécessairement l'humain dedans ?
Oui, absolument. Oui, j'ai foi dans le vivant informe, dans le vivant unicellulaire, dans le vivant qui se réinvente sans cesse, oui, absolument.
Et dans l'humain ?
Moins.
Mais un peu, tout de même.
Oui, un peu. Bon, faut voir, ça dépend comment il évolue quand même.
Le livre peut faire écho à votre roman Le Dernier Monde, dans lequel un cosmonaute découvre que l'espèce humaine a disparu. Il entreprend un voyage autour du monde. Il y a aussi un monde post-humain dans les textes de Plasma. Vous y pensez souvent, au monde post-humain ?
Oui, j'y pense souvent. Je pense aussi souvent au monde actuel, présent, qui serait en dehors de la perception humaine, quoi, ou pas perçue par une foule d'humains, quoi. Voilà. Je pense au monde réel, en fait, mais en essayant de dégager un petit peu la présence humaine qui, quand même, a pris trop d'envergure.
Est-ce que vous aimeriez avoir, j'allais dire, des pouvoirs magiques, mais je pourrais le dire autrement, des sens que les humains n'ont pas, des sens que les animaux ont, par exemple?
Ah, mais j'adorerais ça, mais j'adorerais avoir un sonar, avoir un œil à 18 facettes, avoir une queue, même, ça doit être intéressant pour se déplacer, avoir des pieds préhensibles, avoir un pouce opposable au pied, par exemple, pouvoir monter. Ah, mais j'adorerais.
Ah, mais je vois que vous avez déjà réfléchi à la question.
Mais évidemment, je passe mon temps à essayer de passer dans les sens des animaux, et qui sont des sens qui existent et qui construisent le monde autrement.
Dans votre roman Tovangar, il y a un personnage qui a une aura qui change de couleur. Est-ce que vous pensez qu'on a des auras ?
Ah, Je ne sais pas, mais peut-être qu'elles ne sont pas colorées, peut-être qu'elles sont... Je pense qu'on dégage des choses qui sont peut-être plus des choses magnétiques, quand on est de mauvaise humeur, par exemple, ou quand... et c'est pas forcément parce qu'on fait la gueule, mais ça peut se sentir. Et quand on est plus ouvert aussi, ça peut se sentir, oui, on dégage des choses, et ça passe pas forcément pour une expression faciale ou posturale.
Vous dites avoir conçu Plasma comme une entreprise de désorientation. Je le souligne parce qu'on parle tout le temps d'espace. Vous arrivez-vous facilement à vous désorienter, à vous perdre ?
Ah oui, très bien. Ça, c'est un don que j'ai qui est incroyable. Je peux même me perdre dans une rue dans laquelle j'habite depuis 20 ans si je la prends du mauvais côté. Donc oui, je suis très forte à ça.
Mais dans vos livres, comment vous faites pour ne pas vous perdre ? Ils sont tellement foisonnants, on s'y retrouve, tout est imaginé. C'est vraiment le vrai sens d'auteur qui a autorité, le démiurge. Vous inventez un cosmos.
Oui. Alors, je me perds pas dans mes livres, effectivement. C'est peut-être le seul endroit où je me perds pas, parce que l'espace qu'il y a là-dedans, c'est quand même moi qui le construis. Alors, des fois, je suis obligée de faire des petits dessins. Pour
oui.
Autovanguard, j'étais obligée quand même d'avoir une carte, de faire des petits dessins sur les affluents, etc. Mais non, je me perds pas dans mes livres. J'essaye de perdre un peu le lecteur, mais pas trop longtemps non plus.
Est-ce que vous prenez des photos des endroits que vous visitez ?
Plein.
Le pessimisme et l'optimisme, c'est un problème de tempérament. C'est pas un problème d'analyse de la situation dans laquelle nous sommes. Moi, mon tempérament consiste à faire avec le monde tel qu'on me le donne. Et je suis fasciné par cette phrase de Francis Ponge que j'ai notée au-dessus de mon bureau et qui dit « La tâche de l'artiste est fort claire. Il doit ouvrir un atelier et prendre en réparation le monde par fragments, comme il lui vient. » Voilà, ça c'est mon tempérament. Dans cette perspective-là, quand on voit ce dont on hérite, il y a en même temps des choses puissantes et solides et merveilleuses, comme des formes d'institutions, de solidarité, de droits qu'on a inventés dans la tradition moderne. Et il y a aussi des héritages toxiques, comme une majeure part des formes industrielles, de l'agriculture, de la foresterie, des modes d'exploitation. Et ma question, c'est... on a un temps de vie limité ici-bas, on a une quantité d'énergie relative. À quoi la consacrer pour donner un sens à notre bref passage sur cette terre et contribuer à l'habitabilité du monde pour les générations qui viennent et pour la vie terrestre, ça me semble, moi, être une réponse tout simplement raisonnable.
On entend Baptiste Morisot dans L'Heure Bleue sur France Inter en 2023. On va beaucoup parler du vivant ce soir avec vous, Céline Minard. Et je reviens à Plasma avant évidemment de passer à Tovangard, votre dernier roman. Puisque avant et pendant l'écriture, en général, vous vous imprégnez d'énormément de documentation. Et pour Plasma, d'ailleurs vous parlez de humus sur lequel un livre pousse. Et pour Plasma, vous aviez lu Donna Haraway, Baptiste Morisot, Vinciane Després, Claude Lévi-Strauss. Quelles sont les lectures qui vous ont nourri pour Tovangard ?
Ça a été pas mal de livres en anglais autour de la rivière. Et beaucoup moins de... J'ai plus fait ces lectures documentaires que j'avais, je pense, déjà compostées. Et j'ai plus eu beaucoup de recherches comme ça. J'étais beaucoup sur le terrain, en revanche, sur le tracé réel de la rivière. Et j'ai eu des lectures d'accompagnement, plutôt. Donc, assez loin. Même franchement loin.
Le livre est dédié à Los Angeles. Los Angeles a changé de nom dans le livre. Il s'appelle Hidden. Et c'est le Los Angeles du futur. Mais vous avez donné... vous avez puisé dans les noms du passé.
Oui.
Les Amérindiens.
Oui, mais des noms qui sont actifs en ce moment. Hein. Les noms amérindiens comme Kawengapik, etc., sont des noms qui sont toujours valables en ce moment, qui sont utilisés par les Américains. Mais j'ai gardé ces noms-là, oui. J'ai effacé certains noms anglais ou anglo, et j'ai gardé les noms des natifs américains, et j'ai transformé ou un peu bougé d'autres appellations.
Alors, c'est une sorte d'Atlantide urbaine submergée par la nature et on y trouve la rivière de l'Ouest, que je vous laisse prononcer.
Paimiparait.
Paimiparait, c'est le nom amérindien de la rivière de Los Angeles. Et je crois que vous l'avez longée et vous dites que beaucoup d'Angelinos ne savent même pas qu'ils ont une rivière.
Non, oui. Bah, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas trop à une rivière non plus, hein, donc c'est normal.
Mais on l'aperçoit à certains endroits.
On l'aperçoit à plusieurs endroits, et il y a même un ou deux endroits où elle ressemble à une rivière, même quand elle n'est pas en crue. Mais le reste du temps, c'est plutôt une autoroute à trois voies, avec un filet d'eau pas forcément très clean, qui coule au milieu.
Vous êtes dit, je vais péter tout le béton, c'est en une interview.
C'est ça.
C'est un fantasme.
Ben non, c'est une réalité. J'ai vraiment pété tout le béton. Alors, c'est pas moi toute seule. Hein. tous les corps du plateau ont participé à leur mesure. Tous s'y sont mis quand même. Mais c'est déjà de l'histoire ancienne quand on rentre dans le livre. C'est fait.
Alors, le premier personnage avec lequel on fait connaissance, c'est Amaryllis Swanson, obosière bipède glabre de culture forestière. C'est une expé née. Et vous écrivez à son sujet, son goût pour les espaces hostiles est inexplicable. Et vous vous attaquez quand même à des livres-monde.
Oui, ah ben c'est pas un espace hostile.
Ah oui ?
Ah non, pas du tout.
C'est pas difficile ?
Oui, non, enfin tous les livres sont difficiles à écrire, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est hostile. Et chaque livre est comme une espèce de, d'espace à habiter, mais de maison. Alors la maison, elle est plus ou moins grande, elle est plus ou moins, ça peut être une cave enterrée comme à Hong Kong, là, qui est pleine de pinards, mais ça peut être un plateau entier qui est plein de bestioles. C'est pareil, en fait. Ça n'a pas le même souffle, ça n'a pas la même durée, c'est pas les mêmes intrications, implications. Mais en fait, c'est la même chose à créer.
D'ailleurs, vous avez hybridé vraiment la nature. Enfin, je sais que moi, j'ai pas fait d'études de philosophie, donc la nature, je sais que c'est sujet à discussion. Je fais un raccourci. Et la technologie. Et par exemple, Amaryllis, elle a été formée par une certaine Fa, la plus courue des tech experts de sa génération, qui lui dit, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, être présente est la chose la plus difficile au monde. Être complètement présente est une possibilité qu'il faut apprendre à métaboliser. On revient à cette idée de la concentration.
De la concentration et du fait que ça passe par le corps. Voilà, que c'est une disposition du corps qui va mettre l'esprit, si on veut, dans un état d'éveil, de présence, tout simplement.
Quel est votre rapport à votre corps ?
Oh, bien.
C'est vrai ?
Il est bon, zéro, ouais, non, mais ça va. Mais écoutez, j'en bave un petit peu maintenant en redescendant les pentes pentues. Mais voilà, oui, après 1000 mètres de dénivelé négatif, généralement j'ai mal aux genoux. Hein, mais sinon, ça va bien. Hein.
Et parfois, ça monte ?
Ben oui, avant ça monte. Mais c'est en descente que j'ai du mal, moi.
Ah oui, mais ça peut remonter ?
Non, généralement je monte et puis je redescends, mais après c'est fini, quoi.
C'est
la
mort.
Je veux pas les montagnes russes. Bah non.
On parle de la mort.
Non, non, on parle de la randonnée.
Ah d'accord. Alors, je reviens à Amaryllis qui a une cab de pluie, qui
oui.
est quelque chose d'indispensable pour être dans ce monde. Et il y a même l'expression bien connue dans ce monde, risquer sa cab.
Oui.
Pourquoi seriez-vous prête à risquer votre cab ?
Ah, ça c'est une question. Waouh ! Eh ben, je sais pas du tout là. Est-ce que je risquerais ma cab ? Pourquoi ? Je suis pas sûre que je risquerais ma cab, en fait.
C'est pas évident.
Non, c'est pas évident.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Céline Minard, on évoque votre roman Tovangar, absolument merveilleux, où dedans il est question, rapport à la cab qu'on vient d'évoquer, d'une expédition. Amaryllis Swanson va descendre le fleuve de Hidden avec ses coéquipiers, Atlal, un gros cerveau à la fourrure cavernicole, voleur effuté, et Mianet, la dronote, robot volant au corps, je vous cite, autorégulé, répliquant et conscient. Alors Mianet possède une boule techno et une ceinture en poil de lapin. Comment vous l'avez imaginé ? Vous avez des références visuelles pour imaginer vos créatures ? Il y en a tellement.
Oui, oui, je les vois, oui, oui, sans problème. Mianet est une boule techno. Et,
ah, elle est une boule techno,
une boule
ah oui,
techno.
Je me demandais. Et alors,
elle, c'est une boule techno, voilà, c'est une boule comme ça, avec quelques lasers, son aura. Et Amaryllis lui a fait une petite ceinture en poil de lapin.
Ah oui, je ne l'imaginais pas du tout comme ça.
Mmh, ah ben oui, non mais...
Oui, pardonnez-moi.
Vous la voyez comment ?
Je la voyais un peu plus oblongue.
Ah oui, d'accord. Attends, c'est une boule techno. Et elle a une petite ceinture en poil de lapin, parce que quand elle a fait la rencontre d'Amaryllis, elles se sont rencontrées, mais pour retourner dans l'eau bois dont Amaryllis est originaire, il fallait qu'elle porte la même tenue, en fait. Donc, elle a porté, Marie-Lise s'est mis un pourpoint en poil de lapin et elle lui a fait une petite ceinture en poil de lapin pour faire une entrée douce en fait.
C'est une sorte d'ange gardien ?
C'est une sorte de daemon, je crois, d'esprit malin, présent, protecteur.
C'est drôle puisque daemon, c'est l'étymologie de démon, et en fait les démons ne sont pas forcément négatifs. Ça peut être même le souffle inspirateur de l'écrivain.
Oui, ou du philosophe, absolument. Socrate en avait un, toujours vers l'épaule gauche.
Oui, je me souviens. Est-ce qu'il y a un aspect consolatoire dans ce que vous imaginez ? Parce qu'il y a des déserts, des forêts, des canyons, des cours d'eau, la faune et la flore, les cultures qui vivent en harmonie avec leur environnement ?
Consolatoire et programmatique, je dirais. Il y a cette... J'ai voulu vraiment sauter l'obstacle et dépasser notre époque actuelle avec sa direction très mortifère. Et me dire, on va arrêter de se complaire dans cette espèce de gourbie où tout est négatif, où rien n'est possible, et ouvrir un espace où justement c'est possible de bien respirer, d'avoir des relations égalitaires avec tous les autres corps, et d'être ni sur un pied et d'éliminer tout référence à la domination. Rien, voilà, ni personne sur le plateau de Tova Ongar ne prend le pas sur une quelconque autre communauté que la sienne, et il n'y a personne au sommet de l'échelle des êtres ou au centre de l'univers. En fait, tout le monde est le centre de l'univers, et avec tous ces centres de l'univers, et ben on fait un plateau complet.
Alors, il y a les hydroses, qui sont des batraciens, il y a les graffeuses, assises dans leurs baudriers, et il y a les créates du désert, qui ont le déni facile. Je vous laisse nous dire un mot sur les créates, parce que c'est une communauté qui, quand même, qui se distingue un peu des autres. Enfin, littéralement,
oui.
D'ailleurs.
Oui, elle est assez proche de nous, en fait, voilà, même si eux sont un peu plus poilus. Mais les adultes sont particulièrement bornés, en fait, et dès qu'ils croisent quelque chose de nouveau, ils rentrent dans le déni. Ça n'existe pas, voilà. Alors ça peut leur servir à certains moments, parce que s'ils tombent sur une roche verticale et qu'ils ont décidé que non, elle n'était pas là, ils arrivent à la grimper. Mais des fois, ils en dégringolent aussi. Heureusement, leurs jeunes sont plus éveillés et plus ouverts, et ils vont être moins enfoncés dans le déni et capables de voir ce petit ruisseau que l'hydro est venu tracer dans leur communauté.
Leur nom, c'est un clin d'œil à Ursula Le Guin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
D'Ursula Le Guin ?
Oui.
Ah ben, elle est géniale. C'est magnifique. C'est une très grande écrivaine, très inventive, très stylée.
Faut lire les dépossédés ?
Les dépossédés, Le nom du monde et forêt, d'où viennent mes créates, là. Le Didaka. On peut lire n'importe quoi d'Ursula Le Guin.
Il y a aussi une dimension mythologique dans votre récit. Je pense par exemple aux vieilles toges qui mettent en garde. C'est comme des sages ou des aèdes ou...
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de références mélangées, tout est un peu déplacé, replacé. Les vieilles toges sont des auboisières, mais qui ne sont pas des expés. Justement, c'est plutôt des savantes qui tiennent des registres dans les feuillus.
Est-ce que vous-même, vous aviez un glossaire ? Parce qu'il y en a un qui figure à la fin du livre. Ou vous aviez tout en tête ?
J'avais tout en tête, et puis de toute façon, oui, non. Non, le glossaire, il est venu bien après l'écriture du livre.
Parce que ce qui est fabuleux, et c'est ce que je vous ai dit juste avant qu'on démarre justement l'enregistrement de cette émission, c'est que quand j'ai commencé le livre, il y avait tellement de mots que je ne connaissais pas que je me suis dit, mais je ne vais jamais réussir à comprendre ce qui se passe. Et en fait, ça me paraissait absolument coulé de source, c'est-à-dire que c'était naturel, ces mots existaient. Et je les ai cherchés pour la plupart, pas tous évidemment, mais il y en a plein qui existent réellement,
mais oui.
Et d'autres qui sont inventés.
Oui, mais la plupart existent réellement.
Oui, mais on ne les connaît pas.
Ouais, je ne suis pas sûre. Hein.
Ah bah, j'en ai noté plein, mais je ne sais pas à quelle page, comme j'ai 72 pages de questions. Oui, si par exemple, j'avais noté une tempête de grésil, bon ça existe, créosote ça existe, mais créosote, j'étais sûre que vous l'aviez inventé.
Génial.
Bon, et les wow-wow, j'aimerais bien que ça existe, ça.
Oui, non, ça c'est un peu dérivé, c'est dérivé du pow-wow.
Oui, bien sûr, c'est un conseil parlementaire à la demande, c'est la meilleure démocratie possible.
Absolument.
Les wow-wow.
Wow-wow.
Ah oui, wow-wow.
On se calme.
Ah, ce serait formidable si on pouvait le...
Oui.
Alors bon, là, on va devoir parler d'eux, hein. C'est un peu ceux auxquels on aimerait le moins ressembler du livre. Ce sont les extracts.
Oui, mais enfin, ils ont été bien désactivés quand même.
Oui, mais comme le dit leur nom, ils avaient une tendance à voir le monde par rapport à ce qu'on pouvait en extraire.
Exactement. c'est nous, c'est typiquement nous qui extrayons l'énergie de tout ce qu'on peut, c'est-à-dire de la terre, de la mer, du vent, des corps aussi, des corps du travail. Ils ne pensent qu'à ça, les extracts, voilà, c'est eux qu'on construit Hidden telle qu'elle était et qu'elle n'est plus dans Tovanga. Il reste évidemment des vestiges.
La sauvagerie n'était pas une limite, mais une part du monde considérable. C'est une idée qu'a à un moment Amaryllis. La sauvagerie, c'est les humains.
La sauvagerie, c'est exactement ce qui reste de la civilisation extracte.
Le béton.
Le béton, le concret, le plastique, l'oil noir, quand il en reste. Et Amaryllis est attirée par ces vestiges-là. Elle ne sait pas pourquoi. C'est effectivement inexplicable. Mais bon, voilà, on peut être attiré par les espaces hostiles, effectivement. Et elle est à la recherche de ces vestiges-là. Pour l'instant, au début du livre, elle en a vu très peu. Mais quand elle va découvrir Hidden, elle va en voir énormément. Et elle a cette intuition, dès le début du livre, que, en fait, ça a été un monde. Et c'est peut-être ça qui l'amène à vouloir toujours chercher plus loin des restes de cette civilisation-là, désactivée, donc. Et avec Hidden, elle va être assez servie parce qu'il y a des bouts entiers qui ont été conservés, volontairement.
Il y a des très beaux passages de symbiose entre corps différents. On aimerait pouvoir communiquer et interagir avec son prochain de cette manière. Et je pense par exemple aux arbres qui accueillent les autres corps avec des phéromones d'accueil, dont certains ont des pointes de frimes à l'intérieur.
Ah oui, il y en a qui friment. Les eucalyptus sont un peu frimeurs.
Dans les phéromones, ça se sent.
Ah oui.
Le grand combat. Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drâle. Il le pratèle et le libuque et lui barufle les ouillets. Il le tocarde et le marmine, le manage rap, hari et rip, ara. Enfin, il l'écorcobalisse. L'autre hésite, s'espudrine, se défesse, se torse et se ruine. C'en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'en margine, mais en vain, le cerceau tombe qui a tant roulé. Abra, abra, abra. Le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé, fouille, fouille, fouille. Dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentour qui pleuraient dans vos mouchoirs, on s'étonne, on s'étonne, on s'étonne, et on vous regarde, on cherche aussi, nous autres, le grand secret.
Le grand combat d'Henri Michaux, dit par André Dussolier sur France Culture en 2012. C'est un poème que j'avais découvert à l'école, dans lequel il y a plein de mots qui n'existent pas et pourtant on comprend absolument tout ce qui s'y passe. Et je reviens à votre lexique merveilleux, Céline Minard. Bon, créosote, ça existe, d'accord. Mais vous avez quand même fait un travail sur l'étymologie, puisqu'à un moment vous parlez des Félix, les chats, les heureux, vous parlez des avancés ou des réformés qui sont des extracts pré-Arcadines ou Arcadéens, comment vous prononcez ?
J'aime bien Arcadines.
Oui.
On peut dire comme on veut, on peut dire Arcadéane, on peut dire Arcadines.
Et alors, qui sont-ils, eux ? Parce que vous représentez vraiment tous les rapports qu'on peut avoir par rapport au monde.
Oui, eux sont peut-être des extracts qui ont commencé à bien évoluer, quoi. Ils ont trouvé la peinture photovoltaïque, qui a été quand même une grande avancée. Et puis, ils ont commencé à construire des coques propulsées par le vent. Ils ont fait un tas de choses. Ils sont devenus légumistes pour la plupart. Et puis, voilà. Donc, eux, c'est les descendants des extracts avancés.
On trouve aussi des tapis flovants. Et j'ai lu dans une interview que vous étiez un peu dyslexique et que c'était pénible pour vous quand vous tapiez.
Oui.
Mais ça vous a aidé peut-être aussi pour trouver des mots.
Oui, si, pour un bug blubble. Le bug blubble, mais c'est pas moi qui tapais en plus, c'est génial.
C'était votre aura.
Oui, c'était mon aura. Parce qu'au début, j'avais appelé big blubble. Et puis en fait, c'est devenu bug blubble.
Oui,
et c'était mieux.
Oui, c'est vrai.
C'était beaucoup mieux. Donc oui, ça j'ai gardé, mais c'était pas ma dyslexie. Et non, sinon, il faut être assez précis justement quand on dérive des noms propres ou des noms d'oiseaux ou des noms d'espèces. Donc je fais très attention.
Comment vous avez trouvé par exemple les noms des gros cerveaux? Je vous en cite deux, Arak Tribut Dol Bargain et Massagrave Bichac le Doyen.
Et ben ça, je sais plus du tout. Mais vraiment plus du tout. Il y a plein d'autres, les Ardéanes, je peux vous dire, les Raccoons, je peux vous dire, mais Massa Grave Bichac, je ne sais plus.
C'est votre choix musical qu'on entend, Céline Minard, Naïssam Djalal, Le Souffle 3.
C'est très beau. Hein ? Il y a beaucoup d'air en fait. Elle articule l'air avec sa flûte et le clarinettiste répond d'une façon très intelligente et en même temps ça plane. C'est articulé et planant. C'est fabuleux.
Vous dites d'ailleurs que la littérature pour vous c'est un espace de respiration en parlant d'air.
Absolument. C'est vraiment un espace de respiration, c'est une brèche dans l'air irrespirable qu'on est obligé de se coltiner et qui produit de l'air respirable. C'est ça, la littérature aussi.
Vous dites que vous êtes rendu compte assez vite que Tovengar serait un dessin animé si c'était un film. C'est vrai qu'on y pense en le lisant et j'aimerais qu'on en vienne à un sujet très grave et très léger en même temps. La disparition de l'imaginaire. Vous dites qu'il y a un problème avec la pratique littéraire et que l'imaginaire, c'est un muscle. On ne le sollicite plus assez. On s'en méfie même.
Oui, on s'en méfie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui ont intérêt à réduire l'imaginaire. Parce que plus on en a et moins on les écoute. Et plus on propose des chemins qui dépassent les alternatives qui nous sont proposées, moins ils auront d'emprise. Je veux dire, si on sort de la répétition, on échappe à tous les pouvoirs.
Comment est-ce qu'on peut faire pour cultiver son imaginaire ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'en grandissant, on s'efforce presque d'imiter des vieux adultes sérieux qu'aucun de nous n'est vraiment.
C'est vrai. Et j'étais il n'y a pas très longtemps devant une salle où il y avait plutôt des gens un peu âgés, un peu plus âgés que moi. Et néanmoins, je voyais tous les gamins qu'ils avaient été. C'était très, très clair. C'était très clair. Donc, je pense que c'est une faculté qui ne se perd pas. Le muscle peut s'atrophier, mais c'est comme le vélo, ça revient vite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut lire, on peut se raconter des histoires, on peut inventer des histoires pour les autres.
Combien de langues vous parlez ?
Une.
Le français ?
Mmh.
Pas l'anglais ?
Absolument. C'est terrible, mon anglais.
Mais c'est pas vrai.
Selon
Louise, il s'est émaillé de mots en anglais.
Oui, je sais, mais je triche pas mal avec les langues. En fait, ce que je rêve de faire, c'est de faire rentrer toutes les langues dans le français.
Bah, vous le faites un peu, puisque vous faites des hybridations au sein de la langue.
Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Dans Bastard Battle, il y avait un peu d'allemand aussi, il y avait j'ai de l'espagnol. Et il y a quelque chose où, comme justement, je suis très limitée avec cette espèce de monoglossie, là, et ben, j'essaye de choper des trucs d'ailleurs, y compris des concepts, pourquoi pas, et de les faire rentrer dans le français pour un peu déformer le français et l'emmener ailleurs.
Mais c'est fou parce que, par exemple, la narratrice de Solong Louise, elle est stupéfaite quand elle découvre à 12 ans que Dostoïevski écrit en russe. Alors oui. Vous n'avez jamais eu l'envie d'apprendre d'autres langues pour lire dans le texte ?
Si, bien sûr. Le problème, c'est qu'une langue, c'est tellement subtil qu'il faut 40 ans pour la parler correctement. Et que ça ne m'intéresse pas Enfin, c'est très bien pour parler au restaurant ou pour avoir une discussion avec des amis, mais dès que ça va trop loin, vous comprenez ? Si je peux pas lire la littérature d'une langue, bon, c'est pas la peine. Et comme ça demande 30 ans d'apprentissage, bon, ben...
C'est vrai.
Vive les traducteurs.
Ah oui.
Vous vous appelez Selma. Ça m'a tout de suite frappé, avouai-je. L'eau, solide comme un drap bleu, nous faisait un pagne. Dans le registre... quand on s'est inscrit. Les épaules aussi étaient toutes maigres. Elle ouvrit maladroitement sa grande bouche, puis eut un rire strident, devint encore plus couleur brique, et confia au lac, « Nous aussi. Mais vous, c'est Joachim, n'est-ce pas ?» et poussa un soupir de soulagement. Cardamine des nuages. Je respirai si profondément qu'elle eut un regard fasciné sur ma poitrine, qu'elle eût pu longer comme une muraille jaune.
J'aime bien terminer avec des recommandations de lecture dans la 20e heure. Céline Minard, on entend la lecture de Paysages lacustres avec Pocahontas dans Rose et Poirot d'Arnaud Schmitt, lu par Jean-Luc de Baptiste sur France Culture en 1994. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la découverte d'Arnaud Schmitt et nous donner quelques titres à lire ?
C'est marrant parce que c'est mon texte préféré de Schmitt. C'est Paysages lacustres avec Pocahontas, dont je vais faire une préface bientôt pour les éditions Tristram. Ça, c'est une histoire d'amour absolument fabuleuse. C'est magique. Ma découverte de Schmitt, c'était avec Scène de la vie d'un faune. Et j'ai pas du tout compris ce que c'était que cette histoire-là. Et je me suis dit, ah bon, on peut faire ça. Ah, on peut faire ça. On a donc tous les droits. Ça a été de cet ordre-là, ce genre de révélation. Je n'avais jamais rien lu de tel. Et je me disais, mais comment on fait ça ? Comment on fait un truc aussi fou, aussi barré et aussi cohérent ? Ça tient tout seul. Il n'y a absolument pas besoin d'explication. C'est là, c'est un monde qui est là, qui est absolument profus, serré, super interprété. Ça peut être gavant, hein, mais en fait, moi, ça m'a fascinée.
Elle sort quand, votre préface ?
Je dois la rendre fin janvier, je ne sais pas quand le livre sort, mais peu de temps après, j'imagine.
Merci beaucoup, Céline Minard.
Ah, merci à vous.
Je rappelle que votre roman Tovangar est paru chez Rivage. À signaler aussi, notre collaborateur Franck Olivard a imaginé une lecture avec son et musique du témoignage de quatre instituteurs ayant exercé entre 1768 et 1885. Le spectacle s'intitule « Maître d'école, parole d'instituteur » et sera donné à l'occasion des 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État le jeudi 11 décembre à 17h au 47 rue Vauban à Guyancourt. L'entrée est gratuite sur réservation. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy, Franck Olivard et Alexandra Conné. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Loïs Moreau.